Et on n'est pas les seuls à le dire. L'Institut économique de Montréal a fait émettre une réflexion très intéressante, disant que le modèle de syndicalisation au Québec, c'est une erreur, c'est une anomalie qui doit être corrigée en donnant plus de liberté aux travailleurs. Pour en parler, il est président de l'IEDM, Michel Kelly-Gagnon, est en ligne. Monsieur Kelly-Gagnon, bonjour.
Oui, bonjour.
On est rendu là, je pense, surtout dans un contexte où on voit des syndicats qui ne veulent pas plier d'une façon ou d'une autre, qui se font des power trips. C'était peut-être plus à propos dans les années 70. Il y avait peut-être des inégalités à rétablir, mais la donne a changé et des syndicats jouent avec l'avenir d'industrie, l'avenir d'emploi également, puis on dirait que c'est pas important pour eux autres.
Oui, ben, écoutez, nous, on l'a dit, je le répète encore, on n'a aucun problème avec la possibilité pour les gens de se syndiquer lorsqu'ils veulent le faire. C'est leur liberté de choix. Par contre, ce qu'on a fait, parce que pour avoir des opinions éclairées, une des façons, c'est de se comparer avec les autres pays libres et démocratiques. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plusieurs fondements de la façon dont notre modèle de syndicalisation fonctionne qui sont des anomalies qui, autrement dit, qui seraient illégales par rapport à ce qui se fait dans les autres sociétés libres et démocratiques, y compris les 47 pays là, du Conseil de l'Europe. Donc, il y a plusieurs éléments où, tout en conservant le syndicat et la possibilité de syndicalisation, où il y a certaines protections, encore une fois, dont il faudrait faire bénéficier les travailleurs du Québec au niveau de ce qu'on appelle le droit à la non-association. Parce que le droit de s'associer comprend également le droit de ne pas s'associer.
Ben, c'est intéressant, ça. Puis, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne dans d'autres pays qu'on peut comparer avec le nôtre. Par exemple, s'il y a des gens qui décident de se partir un syndicat, il peut y en avoir 4-5 à côté qui décident, qui font leurs affaires, qui négocient avec le boss, puis qui s'arrangent comme ça ou qui s'arrangent autrement?
Absolument. Il y a plusieurs éléments à ça. On va les prendre un par un, là, mais par exemple, ici, il existe dans les conventions collectives, dans plusieurs conventions collectives, ce qu'on appelle, on va dire, une clause de close shop, c'est-à-dire qu'une fois que le syndicat est rentré, si tu n'adhères pas au syndicat, tu peux perdre ton emploi. OK? Le ministère du Travail nous disait que en 2009, il y avait à peu près 73% des travailleurs, des salariés syndiqués qui étaient couverts par ça. C'est-à-dire, s'il y a un syndicat qui rentre, si tu adhères pas au syndicat, tu perds ta job. Alors ça, cette manière de fonctionner, ben, c'est illégal dans tous les pays d'Europe. Dans tous les pays d'Europe, si le syndicat rentre, tu peux avoir le choix d'en faire partie ou non. Alors, donc, ça, c'est un exemple concret. Un autre exemple, dans tous les pays d'Europe, on donne la possibilité de distinguer au niveau de la finalité de la cotisation syndicale. Autrement dit, si mon syndicat veut faire des actions politiques ou des actions idéologiques qui sont pas directement reliées à la négociation du contrat de travail, moi, comme travailleur syndiqué dans tous les pays d'Europe, j'ai le choix de pas payer la cotisation.
Et ça, c'est important.
À ce moment-là.
Ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire là, M. Kelly-Gagnon, parce qu'actuellement, au Québec, on le voit, hein, avec l'Alliance sociale, là, la CSQ, la CSN, entre autres, pigent directement dans les cotisations de leurs membres. Pourquoi? Pour faire de la politique, pour critiquer la politique du gouvernement Charest dans telle ou telle matière, concernant les finances publiques. C'est inacceptable, ça, M. Kelly-Gagnon.
Ben oui, c'est inacceptable dans le sens de pas donner le choix. Puis encore une fois, moi, puis vous allez voir, je suis pas mal plus smooth avec les syndicats que les gens peuvent le dire. Moi, j'ai même pas de problème si les syndicats veulent faire ça. OK? C'est leur liberté d'expression.
Ouais, mais les cotisations obligatoires.
Mais par contre, qu'ils ne servent pas, s'il y a de leurs membres qui sont pas d'accord pour rentrer là-dedans, ces membres-là devraient avoir un droit de opting out. Et donc, autrement dit, seulement les membres qui veulent payer pour ce genre de campagne-là paieraient et les autres ne seraient pas obligés. Et c'est là où on parle de liberté et c'est là où on parle que nous, le sens de notre intervention, c'est pas du tout d'empêcher les syndicats d'agir, mais c'est de leur demander de respecter la liberté de leurs travailleurs. Puis respecter la liberté des travailleurs, ça veut dire également, lorsqu'on a un vote pour la formation du syndicat, de le faire dans le cadre d'un scrutin secret, où tout le monde peut le faire à l'abri du regard, sans pression. Alors ça, ce sont tous des droits de base où le Québec est à peu près un des seuls endroits dans le monde libre et démocratique à ne pas avoir les trois protections que je viens de vous mentionner. Et à, quant à moi, c'est un scandale et j'espère que les députés à l'Assemblée nationale vont parler de ces choses-là et non pas seulement de l'agenda syndical.
Quand il en va de la survie d'une entreprise, de voir si un syndicat rentre ou un syndicat rentre pas, par contre, notre problème est pas réglé. Puis moi, c'est un dossier que j'avais suivi de très près, la syndicalisation du Walmart de Jonquière au Saguenay, parce que c'est dans mon coin. Puis je sais très bien qu'il y avait un paquet d'employés qui n'étaient pas intéressés à voir le syndicat arriver, mais c'était pas nécessairement des militants. Je veux dire, ils participaient à quelques votes, mais en même temps, se sentaient intimidés par tout le maraudage qui se faisait autour de autres. Et du jour au lendemain, eux autres aussi ont perdu leur job, comme tous les autres. Et puis, ça a créé du chômage dans une région qui n'en avait pas nécessairement besoin. Comment on peut en arriver à régler des problèmes comme ceux-là qui deviennent, je trouve, de plus en plus fréquents au Québec? On se fait raconter l'histoire de la poissonnerie de Granby dans les journaux de ce matin où il se passe sensiblement la même chose, puis qu'on dit qu'il en va carrément de la survie de l'entreprise si le syndicat embarque.
Ben, encore une fois, on revient au fait de dire que si les gens ont l'occasion de prendre une décision éclairée, s'il y a un débat entourant la syndicalisation et non pas de le faire en catimini et qu'il y a la possibilité d'un vote secret, ça n'empêche pas qu'en bout de ligne, peut-être que les travailleurs pourraient, entre guillemets, se tromper et faire le mauvais choix. Mais ça, dans la vie, ça peut arriver. Mais pour revenir à l'exemple que vous avez donné sur Walmart, au Saguenay, c'est intéressant. Parce que moi, j'avais vu à l'époque un reportage de Radio-Canada qui racontait, entre autres, des témoignages de travailleurs qui disaient que dans une même soirée, il y avait une dame qui disait, ils sont venus d'abord à mon domicile pour me demander si je voulais me syndiquer. J'ai dit non, j'ai refermé la porte. Une demi-heure plus tard, ils sont revenus, j'ai dit non, j'ai fermé la porte. Puis ils sont venus comme ça trois fois, puis à la troisième fois dans la même soirée, ben j'ai fini par dire oui. Et quand on a rapporté ce fait-là au commissaire de la Commission des relations de travail, ben sa réponse, ça n'a pas été de condamner le syndicat, sa réponse, ça a été de dire, ben si la dame, elle voulait pas, elle avait rien qu'à dire non. Alors ça, des cas d'abus comme ça, effectivement, si on avait un scrutin secret obligatoire, ben on en aurait beaucoup moins, ou on peut espérer qu'il n'y en aurait pas du tout.
Combien les syndicats perdraient par année, monsieur Kelly Gagnon, en cotisation si l'opting out était possible? Moi, je pense qu'il y a plus de gens qu'on pense qui se serviraient de l'opting out, qui n'ont pas nécessairement besoin d'être protégés par un syndicat. Pourquoi? Parce qu'ils sont compétents et performants. J'ai l'impression que les syndicats en perdraient pas mal, moi, des cotisations.
Oui, en ce moment, on estime, et c'est un estimé parce que les états financiers des syndicats ne sont pas publics, mais on estime que les syndicats vont chercher à peu près chaque année environ 830 millions de dollars en cotisations syndicales.
Des grosses business. Des
sur grosses ce 830 millions-là, combien il y en aurait qui seraient réduits si les gens avaient les libertés et les protections dont je viens de vous parler? C'est dur à estimer, mais ce qu'on sait, c'est qu'en Grande-Bretagne, les revenus, quand on a eu ce type de charte de protection des travailleurs, eh bien, les revenus des syndicats, au bout de quelques années, ont diminué de beaucoup. J'ai pas de mémoire les chiffres, mais ça avait diminué de beaucoup. Sauf que, pour nous, l'important, c'est de s'assurer qu'en bout de ligne, les gens peuvent faire le choix avec, donc, le fait de pas perdre l'emploi s'ils décident de ne pas syndiquer, le fait d'avoir le droit de voter et le fait de pouvoir utiliser sa cotisation syndicale seulement pour les fins avec lesquelles ils sont d'accord. Et ça, je veux dire, ce sont des libertés de base qui ont été reconnues par la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que ce qui est intéressant, M. Landry, puis ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, il y a des gens qui disent, ou surtout des leaders syndicaux qui vont dire, « Ah ben, on le sait bien, parce que l'Institut économique de Montréal, c'est les idées de la droite. » Ben écoutez, quand je vous cite la Cour européenne des droits de l'homme, je veux dire, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les idées de la droite. Ce sont des libertés fondamentales, des libertés élémentaires dont sont privés les travailleurs du Québec. Et on espère que les gens qui sont les décideurs auront le courage de voir la réalité à ce niveau-là.
Ouais, mais des fois au Québec, là, la liberté, on dirait que il y a plusieurs pour qui ça tient pas à cœur tant que ça, hein, la liberté. Les syndicats, là, entendent parler de liberté, là, ils aiment pas ça tant que ça, puis c'est pas quelque chose de si important que ça pour eux, j'ai l'impression, ça.
Ben, peut-être même au niveau du gouvernement. J'ai l'impression, quand vous dites ces choses-là, M. Kelly-Gagnon, on vous écoute poliment au gouvernement. J'imagine ou j'ai l'impression que dans le climat actuel des choses, un gouvernement serait pas très tenté de prendre des décisions à ce niveau-là.
Ben, nous, notre approche, ça a toujours été de travailler sur le long terme à l'éducation du public. Et comme on le fait en ce moment, grâce à l'invitation de votre émission et d'autres que je vais faire aujourd'hui. Et là, ça, c'est, je suis peut-être naïf, mais moi, c'est ma croyance, que si à un certain moment, on informe la population, comme je le fais actuellement, d'un certain nombre de faits qui sont trop peu connus, parce que ce que je vous raconte là, là, il y a bien des gens au Québec qui sont pas au courant de ce que je suis en train de vous dire. À partir du moment où on éduque la population, à partir du moment où on explique à la population ce qui se fait ailleurs dans le monde, ben à ce moment-là, mon espoir, c'est que éventuellement la population, pas les politiciens, la population va mettre la pression pour que les changements arrivent. Mais pour que la population puisse mettre cette pression-là, il faut qu'au départ, ils soient au courant.
C'est vrai. Puis faites-moi plaisir, gardez ça, cette belle naïveté-là. Je pense que c'est nécessaire. Monsieur Kelly-Gagnon, merci.
Salut.
Merci, au revoir.
Au revoir. Salut. Michel Kelly-Gagnon, président de l'Institut économique de Montréal.